Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. Et oui, en ce mercredi soir 13 octobre 2021, après les informés d'Adil Farkan que vous pouvez retrouver en replay sur le site internet beurrefm.net, mais sans oublier aussi dès demain à partir de 19h pétante en live comme chaque soir. Mais ce soir, 20h-21h, c'est l'horaire de votre émission quotidienne sportive qui est Time Sport. Au menu de cette émission, on parlera de quoi ? Allez, on va revenir sur l'Algérie et ses qualifications au Mondial 2022, sans oublier déjà des nations, tout comme le Maroc et les Sénégalais qualifiés, voilà, tout comme l'Allemagne en zone Europe. On parlera aussi d'un certain Olivier Giroud. On essaiera de prendre le chemin pour Marseille avec le match des légendes où nos deux journalistes, Jouba et Abdel, on les aura en live. Voilà, on prendra un peu cette température du côté de l'Orange Vélodrome. Et sans oublier l'invité de ce soir qui n'est autre Kevin Ginisti. Vous n'oubliez pas, le standard vous est ouvert durant une heure, le 01 53 48 3000. Yanis, notre réalisateur, se fera un plaisir de vous faire passer à l'antenne. C'est parti, go go Time Sport.
Time Sport.
Allez, ce soir, avec l'équipe de Time Sport, on est en compagnie de Yasmine. Comment ça va, Yasmine, notre consultante?
Ça va super. Beau programme ce soir. Donc, très content d'être là avec, avec Fala et Louis-Marie ce soir.
Ah ben voilà, tu les as présentés à ma place, c'est super, Yasmine. Fala est avec nous. Comment ça va, Fala? Ah ben nous aussi, Fala. Vraiment de t'avoir. Louis-Marie, ça va?
Ah bah pleine forme, très content d'être là, de retrouver Fala, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé en plateau ensemble.
En plateau avec Fala. Ah bah c'est super. Ouais,
c'est ça.
C'est ça.
Et justement, on va voir ce qui s'est passé. Allez, du côté du continent africain avec ses qualifications mondiales 2022, c'est le premier sujet de cette émission.
Time Sport. Le sujet des sociaux.
Le sujet des sociaux. Eh oui, c'est l'Algérie et les Fenecs. L'incroyable nombre de records battus par ces Fenecs. La bande à Djamel Belmadi. Eh oui, face au Niger. Là aussi, pas mal de belles choses pour ces nations africaines. Comment ça va? Alors justement, ces Algériens, ils vont très très bien.
Ils vont mieux que bien.
Ouais, Louis-Marie.
Ils sont très 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 impressionnants. Et d'ailleurs, bon bah, on peut faire un aparté tout de suite et se dire que le classement FIFA est quand même absolument scandaleux parce que retrouver cette équipe des Fenecs à la 30e place, c'est juste une énorme blague.
Ah, aussi, on pourra en reparler. On a parlé déjà du planning de la phase finale de la Coupe du Monde. On va revenir peut-être avec toi aussi, avec l'équipe, sur ce classement.
Bah, ce classement FIFA, cette équipe des Fenecs, enfin,
Nations africaines.
Bah oui, mais pour moi, c'est de loin la meilleure nation africaine et c'est pas la meilleure nation au classement pourtant. Elle est avancée par le Sénégal, qui est une bonne équipe aussi, mais pour moi, les Fenecs sont au-dessus. Aujourd'hui, la question, c'est de se dire, bah, c'est quoi leur niveau dans le football mondial? Où est-ce qu'ils se classeraient, ces Fenecs? Moi, je suis pas loin de penser qu'ils sont aux environs du top 10 mondial. On est vraiment en train de voir une équipe qui s'installe dans le top niveau. Et on peut se demander pourquoi. Alors, je pense qu'on a tous des petites interprétations à partir de là. Moi, je pense que... Alors, ça va peut-être faire...
Réagir. Allez, on va voir.
Moi, je pense que finalement... Comme d'habitude, et comme souvent d'ailleurs, quand le football français va bien, le football algérien va bien. Parce que la formation française va très bien, et comme on sait que ce sont des pays qui sont très interdépendants au niveau du football, il y a beaucoup de footballeurs algériens qui sont formés en France, et l'équipe de France s'est nourrie d'extraordinaires footballeurs algériens. Le fait que l'équipe de France aille très bien, qu'il y ait une super formation, ça nourrit aussi le football algérien. On voit bien que Riyad Mahrez, Aïssa Mendy, tous ces joueurs qui sont formés en France, vont nourrir le football algérien. Et cette équipe, elle est très très impressionnante. Et la deuxième raison, et peut-être même la première, c'est que Djamel Belmadi fait du super boulot, tout simplement, et qu'il y a enfin de la continuité, qu'ils ont donné les clés à un sélectionneur algérien. Et c'était pas souvent le cas. On a vu beaucoup d'entraîneurs passer, Vaïda Elodic, qui n'avaient pas peut-être l'émotion, la façon de prendre ces joueurs. Je pense qu'émotionnellement, Belmadi, alors j'ai pas le plaisir de le connaître, mais je pense qu'il a vraiment pris l'équipe de la bonne façon. Il sait leur parler, il sait les fédérer autour d'un projet commun. D'ailleurs, la façon dont il a clashé Delors, c'est hyper intéressant. On voit bien que il
n'y
a plus de passe droit dans cette équipe. Maintenant, c'est une grande équipe.
Ça c'est sûr.
Tu peux pas venir.
Même Fala la dernière fois.
Oui, non, mais tu peux pas.
On rentre pas n'importe comment, quoi. C'est pas un moulin.
Là, t'as pas envie de venir, t'es plus bienvenu. Terminé. C'est une grande équipe maintenant, et je pense que il a réussi à le placer comme ça, alors qu'avant, L'Algérie était trop souvent un second choix de.
Pas de rigueur, pas de discipline, c'était pas les consignes pas trop respectées. On voit bien, de toute façon, tu l'as tout souligné, tu as tout dit sur l'Algérie. Cette équipe, on voit bien, elle travaille sereinement, tout ça, et elle veut s'installer durement dans, on va dire, le top 10 mondial. Je pense qu'elle peut y arriver, comme il a dit Louis-Marie, franchement, ouais. Elle monte depuis 5 ans. Franchement, c'est impressionnant.
Et c'est complet dans toutes les lignes.
Ouais, c'est clair. C'est là, ouais. C'est là je veux dire, en fait, Jamel Belmadi,
il a mis un pour toi, voilà. Place.
Vas-y, je t'écoute.
Oui, vas-y, pour toi.
Non,
mais justement,
pour moi,
t'écoute.
Franchement, c'est le meilleur coach. Et surtout, ce qu'on a pu voir, c'est que ces joueurs-là, il leur laisse, comme il a dit, il laisse aucun passe droit à personne. Et il leur est rentré dedans. Il a dû leur rentrer dedans.
C'est une nouvelle façon de voir le football. Rentrer dedans, mais aussi. Il y a beaucoup plus de respect.
Après, est-ce que les footballeurs algériens ne l'acceptent pas beaucoup plus de Belmadi qui est l'un des leurs?
Ouais.
Plutôt que. On se souvient de la discipline extrême d'un Aïlozic.
Parce qu'il y a aussi la culture aussi. Il faut savoir que là, personnellement, peut-être que. C'est un Algérien déjà. Ce mec-là, il est venu, il a joué en Europe, il a joué à.
Ouais, tout comme les joueurs là, de cette sélection.
C'est ça,
pour la plupart.
La plupart, ils ont tous évolué dans les centres de formation.
Il y en a qui évoluent beaucoup en. Qui ont grandi en région parisienne aussi. Enfin,
tout le temps, formation, elle a été faite en France. Après, ça a été un choix de choisir l'Algérie.
Il le disait, cette formation à la française.
On le retrouve aussi après, on verra aussi du côté du Sénégal et du Maroc.
Le Sénégal, le Maroc aussi, toujours là. Yasmine, on écoute, notre consultant.
Je te rejoins, Fallah, et je rejoins aussi Louis-Marie. C'est que Belmadi, il a su façonner une équipe à son image, à son caractère. Ce qu'il a réussi aussi, c'est finalement de changer l'image des joueurs binationaux. Il a réussi à les intégrer dans cette équipe algérienne. Il a réussi à former une cohésion entre les Algériens et entre ces binationaux.
Ouais.
Donc ça, c'est une vraie victoire. Et du coup, la sauce a pris.
La réussite, elle est là, exactement.
Ouais.
Et par exemple, quand l'Algérie, du coup, a gagné la CAN en 2019, c'est aussi en même temps un peu une victoire de l'immigration en France. Contrairement à 98, ou quand c'était la Coupe du Monde, où c'était black, blanc, beurre. Donc là c'était un petit peu différent. Pour moi, il a su, on va dire, restructurer son équipe sur le terrain et en dehors également du terrain. Il avait dit, quand il est arrivé, il a posé les lignes dès le départ, il a dit « Ceux qui viennent jouer pour l'équipe nationale, si les joueurs ne se donnent pas à fond, peu importe leur statut, ils ne vont pas être sélectionnés ». Et ça, je pense que les joueurs ont suivi, ils ont adhéré à son discours, la fédération également. Donc forcément, là, ça a fonctionné.
Je crois que Yasmine vient de dire le mot important.
Alors, c'est
l'adhésion.
Ouais.
L'adhésion. Les joueurs adhèrent au projet de leur coach.
Et ça.
Adhèrent vraiment à. Et en fait, il y a vraiment quelque chose de collectif qu'on n'a pas toujours senti dans l'Algérie, dans l'équipe d'Algérie. Et qui n'était pas qu'au niveau sportif, même au niveau de la fédération, on sentait qu'il y avait beaucoup de discours qui n'allaient pas tout dans le même sens, qu'il y avait des combats internes. J'ai l'impression qu'il y a une vraie cohésion, une vraie adhésion au projet de Jamel Belmadi, et ça pourrait porter l'Algérie assez loin, parce que, mine de rien, l'an prochain, il y a une Coupe du Monde qui est très particulière.
Au Qatar.
On va voir que cette Coupe du Monde, il y aura beaucoup moins de préparation. On en a parlé hier du calendrier qui était particulier, qu'il y aura moins de préparation pour les grands clubs, pour les grandes équipes européennes. Et finalement, est-ce que ça ne va pas avantager un outsider qui pourrait en plus être habitué aux conditions climatiques? Parce que les Algériens jouent toute l'année dans des conditions africaines qui sont autrement plus chaudes, plus avec un gros taux d'humidité. C'est ces conditions qu'ils vont retrouver au Qatar, même si ça sera à l'hiver. Mais enfin bon, l'hiver du Qatar, c'est quand même particulier.
Je pense quand même qu'on aura une meilleure vision après la CAN. C'est-à-dire que là, l'Algérie, ils ont eu l'habitude que dès qu'ils ont eu des mauvais résultats, ils ont évincé le sélectionneur assez rapidement. Ces 4 dernières années, je ne sais pas combien de sélectionneurs a été à la tête de l'équipe nationale. Donc là, j'ai peur aussi que si cette CAN se passe mal pour l'Algérie, que derrière, Belmadi...
Moi, je ne pense pas, parce que je suis d'accord avec Fallah, parce qu'il est algérien. Le fait qu'il soit algérien et qu'il suscite l'adhésion, il va avoir beaucoup plus de patience de la part des supporters. C'est toujours plus facile de soutenir quelqu'un qui est ton idole, qui est Belmadi, c'est quelqu'un d'important en Algérie auprès des supporters.
Il s'est fait une place, quelqu'un
qui débarque, un Allemand, ce que vous voulez.
Qu'on n'est plus dans ce cas de figure là. On veut vraiment des produits, excusez-moi, du terroir quoi.
C'est comme des clubs. Il y a certains clubs, tu peux pas mettre n'importe qui pour entraîner ce club-là. Ben là, l'Algérie, c'est exactement pareil. Ils ont trouvé la personne.
Manchester, Arsenal, c'est un peu ce truc-là.
L'Algérie a trouvé son coach en fait. Parce que tous les coachs qu'on a pu avoir dans des années passées, il y avait cette, je pense qu'il y avait la barrière avec le pays, la culture, tout. Je pense que c'est ça qui a fait que l'échec. Pourtant, l'Algérie, si on calcule bien, on regarde ces 10 dernières années, ils ont toujours eu des belles équipes. Hein. Tu regardes l'équipe d'Algérie, ça a toujours été une.
Il y a eu de belles générations.
Moi, je disais, pour moi, c'était flagrant. Pour moi, c'était vraiment l'équipe de France bis, en fait. Tous ceux qui n'arrivaient pas à partir parce que c'était bouché les portes. Pour pouvoir exploser l'équipe de France.
En équipe de France.
Et alors, ce que tu dis est hyper intéressant, je te permets de te couper. Parce que ce que dit Fallah, c'est ça. C'est qu'à l'époque, l'équipe d'Algérie, c'était un plan B pour ses joueurs. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai. Moi, je vois des joueurs qui choisissent l'Algérie alors qu'ils pourraient choisir la France potentiellement et qui n'attendent pas de savoir est-ce que je vais avoir une chance avec l'équipe de France. D'ailleurs, on voit ça en Algérie, mais on voit ça aussi dans d'autres pays. J'ai l'impression que les footballeurs africains et les fédérations africaines ont réussi à monter des projets qui motivent les joueurs.
Perdu. Juan Trossé, Yacine le disait sur notre antenne, vraiment.
Surtout, et aussi que
on a l'impression, en tout cas.
Qu'en fait, en fait, je pense qu'aussi ça vient dans la tête aussi.
Alors,
à force, ils ont compris que, bon, ça y est, sur peut-être 10 ans, c'est fermé les portes. Il va y avoir des joueurs, ils sont d'un talent. Lui, dans sa tête, il dit, je peux m'immiscer, mais ça va être compliqué. Il y a déjà, c'est déjà programmé pour certains joueurs. Donc, de là, c'est deux fois plus facile de travailler avec des joueurs comme ça. Ces joueurs-là, là, ils viennent pour le cœur, là. Cette fois, ils viennent pas contre eux. Ouais. Ils viennent parce que là, on va défendre le pays. Donc, déjà, dans la tête du sélectionneur, c'est...
Ça a totalement changé.
Oui, mais alors, il y a aussi
le procédé, peut-être. À poser des conditions, à poser des...
Mais il y a une chose qui est intéressante. Tu parles de conditions. La réalité aussi, c'est que Belmadi a très vite dit, moi, je vais pas attendre 5-6 ans que les mecs choisissent. À 21 ans, à 20 ans, quand je les appelle, il faut qu'ils choisissent. Et s'ils choisissent de ne pas venir en équipe d'Algérie, c'est terminé. Ils choisissent l'équipe de France, c'est à vie.
Et je vais pas les récupérer. Avant, c'était un peu l'ascenseur, quoi, le yo-yo. C'est vrai, c'est vrai. Oui, le mari.
L'Algérie, moi, je me souviens de joueurs, ils attendaient pendant des années, peut-être il va venir, peut-être que ce joueur.
Non, on va pas la prendre à toi, Fallah, qui était en centre de formation. Non, mais c'est vrai, Fallah.
L'aspect sportif primait finalement sur l'aspect, on va dire, de l'amour du maillot, finalement. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces binationaux, ils arrivent à s'intégrer. Et c'est aussi un peu à l'image de ce qui se passe actuellement aussi en France sur la condition des immigrés, etc. Du coup, la question se pose moins pour ces joueurs-là en se disant, bon, ben, finalement, je peux également jouer pour l'équipe d'Algérie. Et ce qui les fait venir aussi, c'est le fait que l'équipe gagne. Donc c'est forcément attrayant pour un joueur.
Oui, mais après c'est toujours l'œuf ou la poule. L'équipe gagne aussi parce que très tôt, on les a mis face à un choix. C'est ce que je voulais dire à l'instant, c'est que pendant trop longtemps, les joueurs se disaient j'ai le temps de choisir. Aujourd'hui, Belmadi les met devant le choix. Maintenant, tu choisis ton équipe. Parce que moi, ça m'énerve toujours un peu d'entendre le choix du cœur, le choix du maillot. Ouais. La réalité, c'est qu'on peut aimer deux pays, on peut aimer deux équipes. Moi, ça m'énerve d'entendre, comme on a entendu sur Benzema ou sur d'autres joueurs, ah oui, il préfère être algérien, on préfère être français. Non, mais je pense qu'il aime les deux pays, et c'est normal.
Bien sûr.
Il aime les deux pays, il aime les deux maillots,
il peut aimer
plusieurs maillots.
Mais après, c'est intéressant ce que tu dis, lui-même, parce qu'après, on va prendre le cas, là, c'était Benzema qui a été cité, mais on peut en prendre plein d'autres. Ces joueurs-là, depuis qu'ils sont gamins, ils sont nés, ils sont programmés pour, en fait, cette équipe de France. Donc après, c'est compliqué d'aller leur dire, est-ce que t'as eu, même si on lui propose l'Algérie. Je pense que déjà, c'était déjà programmé depuis, tu vois, depuis qu'ils sont petits. Ils font les classes à 16 ans en équipe de France, les espoirs. Donc, ces mecs-là, après, pour aller leur. Bon, pour Benzema, c'était autre chose. Sa route a été déjà tracée. Mais.
À 19 ans, il était sélectionné en équipe de France.
C'est ça.
À partir de là,
Exactement, c'est ça.
Même, donc, Benzema, c'est Benzema,
C'est ça.
Donc, mais.
Il y a un façonnement, quand même, socioculturel assez important pour ces joueurs-là aussi. C'est-à-dire que le discours de leur famille, de leurs amis derrière est peut-être maintenant aussi différent qu'il y a quelques années aussi.
L'effet nègre raffole, vraiment. Pas qu'en France, pas qu'en Europe. Alors, laisse-moi te dire un truc, Louis-Marie, même pour les auditeurs et les auditrices. Non, mais Fallah, ça va l'intéresser. Parce que Fallah, des fois, je m'en souviens de cet euro et ça restera gravé dans ma tête avec l'Italie. Mardi à Niamey, justement, dans les éliminatoires du Mondial 2022, Louis-Marie, Yasmine, l'Algérie a enchaîné un 31e match consécutif sans défaite. Cette série permet aux hommes donc de Belmadi de battre la performance de l'équipe de France, restée sur 30 matchs sans perdre entre 94 et aussi 96. Dans l'histoire, seuls trois pays ont fait mieux tout de même. Louis-Marie, l'Italie, 37 matchs entre 2018 et 2021. Le Brésil, 35 matchs entre 93 et 96. Et aussi, Fallah, 35 matchs pour l'Espagne. Avec le procès 2007 à 2008.
La seule chose que j'attends de cette équipe d'Algérie maintenant, c'est de la voir se confronter aux grandes nations. On ne la voit pas assez faire de grands matchs. Moi, j'aimerais voir des matchs amicaux avec l'Algérie qui vient jouer l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, enfin des grandes nations européennes, parce que effectivement leur série elle est très belle, mais elle est majoritairement contre des pays africains. Ce qui serait intéressant, c'est de venir les voir se confronter aux plus grands. Et c'est peut-être ce qui va leur manquer en 2022. Moi, je pense qu'ils peuvent faire de très belles choses.
Ouais,
mais ils feront d'autant plus de belles choses s'ils ont l'habitude de jouer des footballs différents. Et les footballs qui sont le top du top.
Après, je pense que si on arrive dans un futur à une Coupe du Monde tous les deux ans, je pense que déjà, le continent africain, ça va l'aider. Je pense parce que déjà, ils vont s'affronter plus régulièrement avec les grosses nations. Donc déjà, je pense que... Déjà, on le voit bien, de toute façon, le niveau du continent africain s'est élevé énormément ces dernières années. C'est, l'écart, c'est pas, je veux dire, il s'est réduit, parce que non. Mais il a fondu un petit peu. Et on voit bien comme ça qu'on discute depuis tout à l'heure. En fait, c'est ça. Pour moi, je pense que c'est les joueurs, ils ont compris.
On va revenir.
Ils ont compris.
Sur ce continent africain.
C'est plus facile. Les joueurs, ils ont envie d'aller dans leur sélection. Ils ont envie. On voit bien des équipes comme la Macédoine, on pourra rigoler. Ou
bah, c'est l'un du Nord, non?
Non, mais ils arrivent à produire maintenant du jeu.
Ouais, c'est vrai. Voilà.
Aujourd'hui, il n'y a plus. Moi, c'est fini. Il n'y a plus de petites équipes.
Tout est possible.
Il y a des joueurs partout dans le monde, surtout en Europe, de toute nationalité qui arrivent à jouer à un niveau.
À produire.
La détection des clubs est tellement maillée maintenant qu'il y a beaucoup moins de talents qui passent au travers.
C'est clair.
Donc du coup, c'est vrai que ça nourrit toutes les équipes.
Allez, super promesse. Je vous dis avec Louis-Marie, Yasmine et sans oublier Fala. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On revient rapidement avec notre invité, Kevin Ginisti. À de suite.
Time Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Tour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie de Louis-Marie, de notre consultante Yasmine, sans oublier Fala. Et oui, Fala, il est là, il est toujours à l'affût de tout ce qui se passe sur notamment les réseaux sociaux, les matchs concernant ce mondial 2022. Va-t-on retrouver Fala, Louis-Marie, côte à côte, du côté du Qatar? Et pourquoi pas, pour le plus grand plaisir des auditeurs et des auditrices de Beurre FM. On y essaye en tout cas, on y travaille, Louis-Marie, ça te fait sourire, mais on y travaille pour cela. Oui, alors est-ce qu'on va avoir notre invité? Non, on va essayer de l'avoir en tout cas. On va enchaîner on est resté sur le football, on va dire, africain. Et justement, on a parlé de l'Algérie, on a parlé aussi du Sénégal, excusez-moi, du Maroc. Et oui, c'est les deux nations qualifiées. Depuis hier soir.
Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que quand il y a une grosse locomotive, derrière, ça suit, les wagons raccrochent. Et j'ai envie de dire que maintenant qu'il y a une vraie locomotive au niveau, niveau international, avec une équipe qui tourne de mieux en mieux, bon, on en a beaucoup parlé, c'est l'Algérie, je ne suis pas surpris que les autres suivent le même mouvement. Moi, je trouve que ça structure aussi au Maroc, au Sénégal, et que c'est deux équipes qui montent en puissance également. Et finalement, il y a un déplacement des forces vives du continent africain, parce qu'il n'y a pas si longtemps, on était vraiment plutôt les puissances, c'était au niveau du Cameroun et du Nigeria, qui sont un peu plus faibles aujourd'hui. Et ça s'est recentré vers le football plutôt du nord-africain.
Ouais. Non, voilà. Alors, pour ces deux nations, mis à part l'Algérie quand même.
Moi, j'ai un problème.
On peut parler de toutes les autres aussi.
Moi, j'ai un problème parce que ça reste mes deux pays, dû par mes origines et tout. Donc. Ma critique, je ne sais pas si je vais avoir la faculté d'être soit supporter ou lucide. Donc moi, je vais reprendre un peu pour le Sénégal et le Maroc. C'est ce que je disais tout à l'heure avec l'Algérie. Le Maroc et le Sénégal, depuis 3 ans, je pense que là, surtout le Sénégal, ils sont en train de bosser. Mais franchement, je vois ce qu'ils ont fait au niveau de la fédération sénégalaise. Ils ont tout retravaillé parce que c'était devenu du grand n'importe quoi. Les joueurs, ils ne voulaient même plus venir en sélection. Il ne voulait plus venir, donc ça veut dire qu'il y avait vraiment un déshonneur au niveau de ce maillot-là. Et je vois que depuis Aliou Cissé, cette grande légende du football africain, surtout sénégalais, a pu, un peu comme Djamel Belmadi, je trouve, il a réussi à redonner une cohésion à cette équipe-là, à cette sélection, un amour pour ce maillot-là. Et ça me fait super plaisir, moi, en tout cas. Et pour en venir au Maroc, franchement, on voit bien Vaïd. Après, tu vois, regarde, c'est bizarre parce qu'avec le Maroc, ça va être beaucoup plus facile pour Vaïd d'aller le dire.
Ouais.
Ça va être beaucoup plus facile. Il n'y aura pas de barrière au niveau de la culture. On connaît le Maroc comment c'est touristique. Donc, n'importe qui peut s'installer tranquillement là-bas. Donc, je pense que lui aussi, et surtout, il a une belle équipe. Et je l'avais dit, rappelle-toi, Bilou, j'avais dit le Maroc et le Sénégal, il y a un an à peu près, j'avais dit, ils bossent. Ils ont tout revu dans leur. dans leur philosophie, que ça soit au niveau des entraînements, des infrastructures, surtout au Maroc. Au Maroc, c'est impressionnant les infrastructures pour pouvoir travailler maintenant, comment c'est mis en place.
Et le Maroc aimerait avoir aussi une phase finale de Coupe du Monde, il faut le rappeler tout de même.
Je pense, hein, parce que franchement, au niveau, vous pouvez aller au stade de Tétouane, de Agadir.
Ouais.
Vous regardez les infrastructures qu'ils ont, excusez-moi, les infrastructures.
Ouais.
C'est franchement, c'est digne des.
Il faudra quand même a priori, à mon sens, une double ou une triple candidature. Ils pourront pas assumer tout seuls une Coupe du Monde. Ça me paraît compliqué pour un.
Bon, après, non, je pense pas. Moi, si demain ils arrivent à avoir une Coupe du Monde, on saura comment ils auront pu l'avoir, un peu comme le Qatar. Mais bon, c'est rien, une petite enveloppe du roi.
Il y a un peu moins de moyens que le Qatar. Quand même.
Ouais. Les gens, ils aiment bien le Maroc.
Yasmine, c'est deux nations, le Sénégal, le Maroc, même les autres.
Je pense que l'Algérie leur a donné quand même l'exemple et l'envie aussi un peu de se surpasser. Surtout pour le Maroc, j'ai l'impression qu'ils essayent de suivre un peu, être un peu dans les pas de l'Algérie. C'est bien pour le football africain. Ça serait bien également pour la Coupe du Monde l'année prochaine. Après, j'ai un peu plus de réticence pour les autres nations. Je suis un peu, même si la Tunisie, par exemple, est sur une belle série de victoires, je suis un peu aussi réticente pour ces équipes-là. On verra.
Mais tout à l'heure, Bilou, c'était toi tout à l'heure, Yasmine, qui disait par rapport au Cameroun. Non, c'est toi, Bilou, je ne sais plus.
C'est moi qui parlais.
Ouais, voilà, excuse-moi, Louma, c'est ça.
C'est ça.
Va bien, il a raison, en fait. Le vent, il a tourné.
Pour ces nations africaines.
Voilà. Avant, c'était le Cameroun, on voyait bien. Ils avaient des équipes, mais pendant longtemps, le Cameroun, ils faisaient mal à tout le monde. La Tunisie pendant pas mal d'années. Et on voit bien, de toute façon, on en parlait il n'y a pas longtemps. Je disais, la Tunisie, de toute façon, ils vont connaître une période. Ça va être très compliqué parce que derrière, on voit bien, ça ne produit plus de jeunes. Il n'y a plus de joueurs emblématiques comme on a pu avoir. Je crois le dernier, ça va être Kazri, qui va prendre sa révérence dans pas longtemps. Donc, et je ne vois pas un avenir tout de suite pour la Tunisie.
Après, c'est cyclique. Je pense qu'il y a quelque chose de très important, entre guillemets. Ces plus petits pays qui sont moins nombreux, il faut pour moi une tête d'affiche. Et pour moi, le Sénégal, c'est pas du tout comme l'Algérie ou l'Algérie. Pour moi, c'est structuré, il y a plus de monde. Le Sénégal, c'est vraiment aussi la réussite de Sadio Mané qui est devenu une star depuis 3-4 ans. C'est pas un hasard que cette sélection remarche parce qu'il y a quelqu'un qui porte la sélection. On parlait du Cameroun, pourquoi ils ont été si forts? C'est qu'il y avait Eto'o. Pourquoi la Côte d'Ivoire est si forte? C'est qu'il y avait Drogba. Il y a quelqu'un de très fort qui tire le reste de l'équipe et qui va motiver les gens. En fait, concrètement, Sadio Mané, c'est quelqu'un qui a toujours été très engagé pour sa sélection et du coup qui a drainé les autres. Comment tu peux refuser la sélection alors que Sadio Mané vint? C'était pareil quand Drogba allait en Côte d'Ivoire et quand Eto'o allait au Cameroun. Et finalement, je pense que c'est très important et qu'il y a beaucoup de pays, tous ces pays-là, ils sont un peu dépendants d'avoir une tête d'affiche. Et c'est ce qui manque aujourd'hui au Cameroun, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de stars au Cameroun. Au Nigeria, on en voit moins. Donc, je pense que c'est ce qui manque à ces pays-là et ça peut repartir assez vite. Il suffit d'un très grand joueur.
Ouais. Oui, c'est vrai, d'une pépite où il a raison.
Là, actuellement, je pense qu'il y a une grosse fracture.
On termine avant d'accueillir l'invité.
Le football au Maghreb et le football africain pur. C'est ça qui. Je pense que la fracture même est de plus en plus profonde aussi entre toutes ces équipes-là. Et c'est ça qui est pour moi le plus inquiétant pour la suite, pour ces nations africaines.
Allez, place à l'invité de ce soir.
Time Sport. The Special One.
Kevin Ginestik est avec nous ce soir pour la première fois sur l'antenne de Beur FM, on le rappelle. Et oui, fondateur de l'Exact Trek. Bonsoir Kevin.
Hey, bonsoir.
Comment ça va Kevin?
Eh ben, ça va très bien. Merci de m'avoir invité dans l'émission.
Mais merci à vous pour cette disponibilité. On le rappelle, 3000 km sur le plus long trek de France. Hein. Je dirais même pas le plus long de France parce qu'on a l'impression qu'il part de Bilbao et il atterrit du côté de Stuttgart. Et on a des grands voyageurs avec Fala, Yasmine, Louis-Marie. Non, mais vraiment, d'où vous est venue cette idée tout de même? C'est vrai, on voit le trek en ébullition, en totale évolution à travers la France, mais même en Europe, sur le vieux continent. Kevin.
Oui, clairement, c'est quelque chose qui existait déjà énormément aux États-Unis. Il y a trois grands treks qui s'appellent le Triple Crown, il y a le Pacific Crest Trail, l'Appalachian Trail et la Great Divide. Et là-bas, c'est vraiment une culture d'aller randonner pour traverser le pays. Ça remonte à l'époque du Far West et de la conquête de l'Ouest. Et il y a effectivement des sentiers de randonnée qui traversent le pays. Et moi, j'ai eu l'expérience de voyager pendant 5 ans, dont à un moment donné, je suis parti de la Patagonie argentine pour remonter jusqu'en Alaska. Et sur ma
route,
il y avait ce Pacific Crest Trail. Et c'est là où j'ai vécu cette expérience. Et pendant que j'étais en train de le marcher, en plus c'était l'année dernière, donc année Covid, pas grand monde sur le sentier. J'ai passé 14 jours à mon avis sans voir un être humain. Ça m'a donné à réfléchir et je me suis dit pourquoi est-ce qu'on n'avait pas quelque chose de similaire sur notre continent.
C'est ça. Et vous avez mis en place cela, une grosse, on va dire, gestion, l'intendance aussi à faire. Je ne sais pas, cette logistique, tout simplement, à mettre en place, assez difficile peut-être. Parce qu'on traverse pas mal de régions, que ce soit les Vosges, que ce soit la Savoie. Ouais.
Ouais, bah on s'est dit qu'il fallait faire ça par étapes et que le plus simple aujourd'hui, ça serait de réunir tous les sentiers qui sont déjà existants, puisqu'on a la chance d'avoir la Fédération Française de Randonnée et puis plein de bénévoles qui entretiennent toutes les GR de France. Et on ne crée rien en fait. On a juste assemblé 47 des plus beaux GR français. Et la chose qu'on a créée, par contre, c'est une application mobile qui est en cours de développement et qui va permettre de donner aux randonneurs l'ensemble des infos sur le bivouac, chose qu'on n'a jamais eu en France. Les points dans lesquels tout est la liste des refuges, des abris, des points d'eau, des lieux où on peut se ravitailler. Donc tout pour partir à l'aventure en sachant à peu près où on va.
Ok, Marie, une réaction avec notre invité.
Oui, bonjour Kevin. Oui, donc tu as un petit peu répondu à la question que j'avais posée, parce que j'ai essayé de comprendre un petit peu de quoi il s'agissait. En fait, l'idée, c'est de mettre pour tout le monde à disposition les moyens de faire, de traverser la France. C'est pas un événement ou quoi que ce soit qui sera autour. C'est vraiment plus un outil qui permettra à tout le monde de se lancer quand il a envie et partir faire 1000 kilomètres.
Ouais.
Oui, clairement, c'est devenu un peu les deux parce que j'ai commencé à avancer sur le projet tout seul dans mon coin. Aujourd'hui, il y a deux personnes qui sont venues rejoindre le projet. Et pour développer l'application mobile et puis peut-être imaginer un balisage et créer une association à but non lucratif et refaire une charte graphique, un logo, enfin tout ce qui va avec, on a lancé une campagne de financement participatif où on invite nos contributeurs à faire partie de cette première édition des pionniers et à parcourir la France avec nous. Ou indépendamment grâce à l'application. Dès 2022, donc quelque part, il y a déjà 800 contributeurs sur cette campagne et c'est devenu un peu un événement pour 2022. Après, effectivement, c'est pour que le tracé il existe et qu'il soit accessible à tout le monde dans les années qui suivent et qu'on l'améliore avec le paysage et les informations.
Et concrètement, est-ce que tu vas lancer, par exemple, ce tracé en le faisant toi-même avec certaines personnes, avec de la communication à partir d'une certaine date? Est-ce que tu as prévu un espèce d'event de lancement, un happening qui pourrait un petit peu faire buzzer autour de tout ça?
Du 15 juin au 20 octobre, je pars de Hendaye, de l'océan Atlantique, pour aller jusqu'à la frontière allemande à la fin de l'Exatrek, 3000 km plus loin, le 20 octobre. Et ça, moi, je vais le parcourir intégralement et j'ai créé quelque chose qui s'appelle la marche des pionniers. Les gens ont pu s'inscrire sur la campagne de financement. C'est déjà plein. Ils avaient réservé 6 places par section parce que j'ai divisé le parcours en 16 sections et d'à peu près une semaine de marche. Et c'est déjà plein. Et donc, je voulais être limité à 6 personnes maximum pour préserver les lieux de bivouac et puis faire la conviviale. Et donc, je vais traverser la France avec tout un tas de gens qui ont tout un tas d'histoires, parce que c'est ça qui est passionnant.
Assez intéressant.
La marche longue distance, c'est qu'il y a peu de gens qui se disent, tiens, je vais aller faire un hors de 3000 km.
Ouais, c'est ça.
Il y a plein de gens, par contre, qui ont plein de personnels, de traumatismes, des choses. Ils ont envie de quitter leur boulot, faire quelque chose de transcendant dans leur vie, et pas forcément aller au Club Med pour prendre des vacances.
Ouais.
Et du coup, j'ai des contributions.
C'est l'expérience à vivre. Vraiment. Ouais. Humaine. 14 parcs naturels, les plus beaux paysages réunis dans une même randonnée, tout de même inoubliable quand même. Yasmine, une réaction. On va voir ça là. Alors,
moi, je voulais me lancer dans le GR 75.
Ah oui.
Et justement, je me posais la question, c'est comment on se prépare psychologiquement, mentalement et physiquement surtout à une telle aventure?
Le GR 75, il est où déjà?
Comment?
Le GR 75,
c'est Paris. C'est tout Paris, c'est le Grand Paris.
Ah, ok. Eh bien, j'ai envie de dire que pour les treks de longue distance, bien évidemment, c'est déjà super d'avoir une bonne alimentation, d'aller faire de la rando. Mais quelque part, moi, j'ai marché le Pacific Crest Trail. Les deux premières semaines, je marchais 20 km. Les deux semaines d'après, j'en marchais 40. Et à la fin, je marchais 60 km par jour. Parce que quand on fait que ça tous les jours, au bout d'un moment, les jambes se transforment un peu.
Ouais, donc du coup, finalement, pas besoin d'une préparation spécifique. Tu nous dis, c'est plus mental, c'est avoir envie.
Expérience humaine, quoi.
Voilà, c'est
C'est le total néophyte. C'est bien ça. Ouais, non, c'est vrai, Kevin. Pour les auditeurs,
on apprend un peu sur le terrain, on apprend un peu sur le terrain, parce que répéter le même effort tous les jours, particulièrement pour la marche, c'est quand même normalement l'un des sports peut-être qui est le plus accessible à peu près tout le monde. J'ai des gens de 60 ans qui veulent faire le parcours, j'ai quelqu'un qui est en surpoids qui veut faire le parcours, il y a plein de gens qui ont des défis personnels et qui, avec la motivation, iront jusqu'au bout, j'en suis sûr.
Voilà, peut-être une réaction avant de laisser filer, Kevin.
Bonsoir, Kevin. Franchement, bravo. Franchement, bravo pour ton parcours. C'est impressionnant. Je suis bien loin des GR10 que j'ai pu faire quand j'étais ado.
Ouais, quand même, ça va. Au centre de formation aussi, ça. Il y avait du parcours.
Ouais. Justement, parce que j'ai vu que t'es parti dans les Pyrénées et je garde particulièrement un souvenir des Pyrénées. Et j'adore cette région. T'as quel regard sur les Pyrénées, les Hautes-Pyrénées?
Ouais, écoute, je connais très très bien la France et il y a un seul endroit que je connais pas si bien que ça, c'est les Pyrénées. Je connais que les Pyrénées catalanes. Et du coup, j'ai été sur plein de forums de passionnés des Pyrénées. Il y en a plein sur Facebook, Passion Rando Pyrénées, J'irai Rando dans les Pyrénées. Ouais. J'aurais posé la question pour vous, c'est quoi les endroits les plus beaux des Pyrénées? Ils m'ont tous donné leur lieu et j'ai créé un itinéraire qui suit le GR10, qui suit le GR11, qui suit un autre itinéraire qui s'appelle la HRP.
D'accord.
Dans les Pyrénées. Et on a essayé de relier les plus beaux lieux, parce que par exemple le GR10 ne passe pas par le cirque de Gavarnie, qui est un lieu magnifique. Il faut faire un détour normalement de 5 ou 10 km. D'accord. On a fait passer les Gatrex par le cirque de Gavarnie.
Je t'invite à aller au lac Vert dans le sentier des Hautes-Pyrénées.
C'est Fala qui vous conseille, hein.
Ouais,
qui a l'habitude aussi de ces
manières. On a tous de bons souvenirs. Ouais. Moi, je me souviens de belles randonnées autour du pic d'Ossau aussi.
Ouais. Ouais, bien évidemment.
Qui est assez canon.
Lac d'Ayou, pic d'Ossau.
Exactement.
On prendra sa photo là-bas. Ouais.
En tout cas, un grand merci. On le rappelle pour l'Exact Trek de cette année 2022 pendant 45 jours. Pour toutes les infos, Kevin, où on peut se rendre, exacttrek.com, c'est ça, le magnifique site que vous avez mis en place.
Exacttrek.com, oui. Et puis il reste 2 jours de financement participatif.
Ouais.
La campagne se termine. D'ailleurs, après ces 45 jours intenses, je vais aller marcher une semaine seul sur l'Exacttrek pour m'en remettre. Du coup, on peut encore.
Il faut. Voilà.
Sur la campagne.
Il faut contribuer. Le site
sur Ulule.
Ouais, c'est ça. Et aussi. Il y a un accès directement, il y a un lien sur le site internet exacttrek.com. Hein. On est bien d'accord. HEXATREK.com. Voilà.
En tout cas, ce qui est très amusant, c'est qu'on voit que notre invité, lui, il va se reposer en faisant du trek, alors que nous, on fait du trek et après, on a besoin de se reposer.
Ouais, c'est ça. Un grand merci à vous, Kevin Genesi, d'avoir été avec nous sur l'antenne de Beurre FM.
Merci.
La suite de l'émission, on va marquer d'une pause. On va marquer d'une pause et on va revenir avec Abdel, c'est promis, du côté de Marseille avec Jouba. Et on va voir si c'est vraiment un match de légende. Ouais, on va voir parce que Fala n'était pas trop d'accord. Alors on verra bien. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour pour la dernière partie de cette émission qui est Time Sport. Jusqu'à 21h, on est ensemble avec Fala, avec Yasmine, avec Louis-Marie. On a été rejoint par un journaliste qui est Ryan. Eh oui, pro-M, je pense. Hein. Ryan, comment ça va?
Ça va très bien, et vous?
Ça va très très bien, Ryan. Eh oui, ça va. Tout de même, on va voir. On va voir parce que la compo de ce match-là, WM Légende, Fala, écoute bien. Barthez, Bay, Boli, Van Buten, Théo, Sissé, Pires, Nasri, Jules, Ravanelli et Drogba.
Il y a quand même un nom qui m'étonne là-dedans, quand même.
L'UNICEF, on a Lehmann, Carambeu, Carvalho, Riner, Abidal, Combinaison, Mandetta, Parker, Kluivert, Trezeguet et Mpokora.
L'équipe d'en bas, ça allait pas mal en vrai.
On va essayer de prendre le chemin de Marseille.
Time Sport. La troisième mi-temps.
Avec Abdel et Jouba, justement. Abdel, Jouba, comment ça va?
Ça va très bien, Bilal, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Je suis content de vous entendre, là, d'être au téléphone pendant qu'on est en train de regarder le match avec Jouba, c'est très sympathique.
Ah justement Abdel, il y en a qui se moquent un peu hein, parce qu'on nous dit match des légendes, mais moi j'ai beaucoup de respect pour l'artiste Jules, mais on s'attendait quand même à avoir les légendes de l'Olympique de Marseille, entre autres les légendes de 93, Boli. Voilà quoi.
Ouais,
ou encore Boli comme le dit Fala.
Il y a Basile Boli qui vient d'entrer justement là.
Ah ben,
ça c'est bien. Et après voilà, on a des joueurs comme Drogba là qui sont à l'initiative de...
T'as pas vu Carlos?
Qui ont mis un triplé.
Ouais.
Et voilà, c'est un bel événement. Là, je pense qu'on a eu des réactions avant le match.
Ouais.
Ils étaient tous contents d'être là. Il y a des changements toutes les 2-3 minutes pour faire croquer tout le monde.
Bien sûr.
Là, c'est bonne ambiance, c'est bon délire. Donc, c'est très sympathique comme, comme initiative.
Alors, voilà, peut-être Abdel, une réaction avec le mari.
Il n'y a pas Carlos Moser dans le coin.
Ouais, c'était pas mal, Carlos Moser.
Mais c'était mais wow. Pourquoi je te dis ça
c'est une légende du. Voilà, on a vu De Saï, on a vu Boli, il y a Olmeta aussi.
C'est bien. Ouais.
Une bonne partie du temps. Mais c'est les seuls qu'on a pu apercevoir, en tout cas, sur le terrain. Peut-être que. À la fin du match, on en croisera d'autres, mais sur le terrain, c'est les trois qui étaient cités qu'on a
vu. Ah ben, on espère que vous allez les rencontrer, hein. Voilà, parce qu'on veut les inviter aussi prochainement, hein, sur l'antenne de Beurre FM. Oui, Louis-Marie et Ryan.
Dis-moi, Abdel, bon, sportivement, ça se passe comment, là? C'est sympa à regarder ou ils sont vraiment en galère, tous ces anciens?
Non, franchement, ça se voit qu'il y a de beaux restes, notamment là, si tu regardes Cambiasso et Mendieta.
Ouais, Cambiasso et Mendieta.
Ils tiennent le milieu de terrain. Mais après, non, franchement, il y a de la qualité. C'est pas le rythme le plus élevé possible, mais ça joue. Franchement, il y a eu pire comme match de charité.
Ouais. Allez, Ryan. Ouais,
moi, ce que je trouve intéressant, alors, surtout, c'est le fait qu'il y ait certains joueurs qui soient connus aussi mondialement, comme Didier Drogba, comme on l'avait dit avec Djibril Cissé, avec 42. Ouais. Et moi, j'ai une petite idée et je me suis demandé si on pouvait pas faire ça une fois par an au moins.
Ouais.
Voir un peu ce que ça
avec
donne.
Avec des anciennes gloires.
Exactement.
C'est vrai. Pourquoi pas? Un PSG Marseille, mais vraiment avec les grosses mains. Ouais, mais ça fait un pour le business, tu peux le dire. Hein.
Ouais, oui. Non, voir un peu la condition physique. Après le professionnel, ouais, voir ce que ça donne.
Il ouais, y a suffisamment de foot à haut niveau. Enfin, ouais, très sincèrement, je trouve ça très sympa, mal, ces petits événements des de équipes, temps en temps. Mais faut pas non plus le systématiser. Non. Quoi.
Ouais, il y en a qui le voulaient. Alors, Abdel, on l'écoute.
Tu sais que mine de rien, pour répondre à Louis-Marie et à Ryan,
ouais,
ben, ça fait quand même venir pas mal de monde dans le stade.
C'est vrai. C'est vrai.
Dans les tribunes hautes,
il
y a quand même pas mal de monde. Il n'y a pas beaucoup de trous. Donc.
Les Galactiques, par exemple, du Real Madrid de l'époque de Zidane, avec ceux du Milan AC. Non, mais je rigole, mais le stade, il serait plein, Louis-Marie.
Exactement.
Je te parle sérieux. Les gens qui aimeraient voir Zidane ou. Non, mais je te parle sérieux, ou Beckham.
Non, mais.
Alors, Yasmine. Parce que c'est temps pour parler, hein. Les Américains, vous le prenez, cela, justement, Ryan.
Ouais,
Yasmine.
Non, j'avais la même question que Louis-Marie, mais du coup, techniquement, Jules, Soso Maness, Alonso. Qu'est-ce que ça donne sur le terrain?
Jules, pas mal, parce qu'on sait qu'il a joué à un bon niveau. Après, sur son manège à l'ombre, c'est plus dur, mais... Ouais. Deux matchs sur un direct, énorme but. Un gros touché, en direct, je vais l'embrasse. Énorme but de Benoît Chéroux.
Ah là, Benoît Chéroux. Allez.
Ah
ouais.
Donc voilà, en direct, un petit but pour Taïfor et Beurre FM, ça joue bien.
Ah ben merci Abdel, merci l'accompagné de Jouba Houchen aussi, un grand merci Abdel pour toutes ces informations. Ah ben on aura aussi d'autres exclus sur les réseaux sociaux, ça c'est promis, en la personne d'Abdel Ahmed, notre journaliste, et sans oublier Jouba. Oui, l'OM ça fait encore rêver, tout comme le Paris Saint-Germain, tout comme ces clubs français. Ouais, avant de passer à notre dernier sujet qui est Olivier Giroud. Mais oui, messieurs dames.
Ouais, non mais je trouve ça très sympa ces événements, mais faut pas. Justement, il faut que ça reste exceptionnel, parce que si ça devait se systématiser, je pense que ça lasserait assez vite. Moi, honnêtement, on voit pas mal ça, par exemple, dans le tennis, où tu vois les tournois des légendes.
Tu aimes bien ça?
Oui, non mais.
Mais oui, le mari.
Oui, mais quelque part, disons que c'est un sport qui s'y prête plus, parce que malgré tout, quand tu fais. Et en tournoi des légendes, il n'y a que des doubles, ils n'ont pas à courir.
Ouais, c'est vrai,
et que du coup, les mecs en double, ils en vont encore lourd. Moi, j'ai eu l'occasion de taper il n'y a pas si longtemps avec Henri Lecomte, il a encore un bras, pépère, faut pas déconner. Il a encore un bras qui est impressionnant. Mais quand il s'agit de se déplacer, c'est plus la même histoire. Donc du coup, je pense que le foot s'y prête un peu moins pour parce que les déplacements, il n'y a pas d'intensité, ça court pas trop. Faut que ça soit sympa, que ce soit voir les légendes de temps en temps. Si tu les voyais 4 fois dans l'année faire ça, je suis pas sûr que ça intéresserait trop.
Alors moi, si je peux répondre juste à Louis-Marie, c'est une fois par an. C'est pas non plus, on va pas tomber dans le surplus. Une fois par an, c'est rien. Surtout si c'est caritatif, c'est-à-dire que voilà.
Ouais, mais c'est le cas, c'est exigé une fois par an, c'est bien. Non mais voilà,
une fois par an, c'est franchement pour moi, c'est vraiment dans la limite du raisonnable.
Faudrait voir les affiches, parce que si, comme disait Bilou, c'est les anciennes gloires du Real de Madrid ou les anciennes du Milan.
Bon, après,
je pense qu'à mon avis, là, ça va attirer.
Ça va attirer beaucoup
après,
de monde.
Si tu commences à mélanger des.
On est d'accord, voilà, moi, je suis d'accord.
Non, ça va pas trop. Ils vont
en avoir marre.
Exactement.
Si tu mets une équipe avec les 46 d'or,
je te garantis.
Avec les. Ouais, non, c'est vrai, du Milan AC. Moi, je suis d'accord avec toi.
Tu prends Marseille 93 et Milan 93 et tu fais en fin d'année. Tu vas voir que le match va être.
Non, mais d'accord, mais quel est le problème de ces organisations?
Alors, c'est quoi? Ils c'est du besoin... privé.
Non, mais c'est pas ça. Non. C'est qu'il y a besoin d'avoir beaucoup plus de joueurs parce qu'ils tiennent plus le rythme. Donc tu peux plus. Non, mais c'est... il faut mobiliser beaucoup de joueurs.
Il a raison.
Tu peux pas avoir.
C'est vrai.
Tu peux pas avoir 14 joueurs de chaque côté. C'est ce qu'ils disent. Ça tourne toutes les deux minutes.
Ancelotti, ça va être difficile de le remettre sur le terrain.
Ancelotti, comment il fait?
Ça va être compliqué pour Ancelotti.
On n'y pense pas.
Mais ouais, mais c'est non. Mais il a raison.
Donc t'es obligé d'avoir 30 joueurs de chaque côté. Ça veut dire du foot américain.
Ça va. Là, je crois que allez, le Real des années 2000-2001, tu pourrais faire quelque chose avec le Milan AC des années 2000 aussi.
Il y a tellement de choses à faire.
Il y a tellement de joueurs à remontrer aussi.
Il n'y a pas 90 minutes, tu pourras pas.
Pas forcément 90 minutes.
Ryan, les mecs qui sont sortis du circuit il n'y a pas si longtemps, faut les mobiliser. Pour en mobiliser suffisamment, ça coûte de l'argent. Enfin, tu vois, c'est quand même compliqué, ça coûte de l'argent. C'est pas si simple. Pourquoi ça marche là? Pourquoi les mecs viennent? Parce que c'est très rare et qu'il y a des vieilles gloires qui sont un peu en désuétude parce qu'ils sont un peu oubliés parce que c'est des stars des années 90. Et si tu me parles effectivement des Galactiques de 2005 au Real, c'est pas il y a si longtemps que ça. Les mecs qui sont encore quasi dans le circuit, ils sont entraîneurs.
Machin. Zizou, tu regardes Zizou, il a encore une condition.
Ouais, je pense que
Ronaldinho, il est peut-être gros, mais regardez les.
Il a rien perdu
parce que le dernier match qu'il a fait.
Il y a eu un match caritatif. Il n'y a pas si longtemps que ça.
Ah, techniquement, il n'a rien perdu, mais en termes de mouvement.
Il n'a rien perdu. Mais il sait où se placer, par contre. Il va rester dans les 20 derniers mètres. Par contre, après, c'est fini.
C'est fini.
Non, mais après, ce qui est bien avec ces machins, par contre, c'est pour les familles qui veulent aller voir, tu vois, qui veulent pas aller voir du football peut-être toute l'année, mais un match comme ça, ils peuvent ramener leurs enfants et ils vont se dire, j'ai moins de risques d'assister à une bagarre ou.
C'est intergénérationnel.
Voilà, exactement.
Voilà, le match est en direct sur l'antenne de nos confrères de l'équipe. On va s'attarder sur le dernier sujet de cette émission.
Time Sport, le mode pressing.
Eh oui, justement, c'est Olivier Giroud qui se lâche un peu sur ses, voyez, ses vérités, sur les polémiques avec les Bleus. Eh oui, tant de choses à dire. Olivier Giroud, l'absent, le grand absent. Malheureusement. On espère qu'il reviendra, Olivier Giroud.
On espère, on y croit peut-être pas trop, mais moi, ce que je trouve, c'est qu'on a fait beaucoup de buzz autour de ces soi-disant révélations.
Voyez, Noumari.
C'est très, très neutre ce qu'il dit. Je trouve qu'il va pas très loin. Il est dans le politiquement correct et il a bien raison. On voit bien que c'est quelqu'un là qui essaye de dire non, mais en fait, les mauvaises relations qu'on prête avec les joueurs, c'est faux. Vous pouvez me rappeler. Quelque part, c'est une campagne de com' qui fait. Il dit ah, on me dit que je suis plus pote avec Benzema. Pas du tout, j'adore jouer avec lui. Ça m'a même fait rire quand il a dit que j'étais un carte.
Ouais.
Pareil avec Mbappé. Oh, bon, on en a parlé, on s'entend très bien, pas de souci.
Bien sûr.
Là, il est en train de faire sa com' parce que le rêve de sa vie, de cette fin de carrière, c'est de battre ce record d'Henri. Il n'est pas si loin. Et en fait, on voit que ce record, il va lui échapper parce que c'est très compliqué de le rappeler. Concrètement, moi, Dieu sait que pourtant, j'adore ce joueur et j'ai longtemps défendu sa position. Bon, la réalité, c'est que maintenant que Benzema est revenu et qu'il fait le taf, il n'y a plus besoin de lui.
Oui, selon toi, Yasmine, Ryan.
Pour moi, sur cette interview-là, on n'apprend pas grand-chose.
Ouais.
Bon, c'est vrai qu'il charge pas mal les médias. Il remet pas mal la faute sur les médias, sur le fait que ça...
Il le dit.
Mais moi, la seule chose que je veux retenir, c'est que c'est un joueur qui reste professionnel jusqu'au bout, qui dit qu'il est encore à la disposition de l'équipe de France et qu'il laisse toujours la porte ouverte. C'est la seule chose que je retiens.
Alors, Ryan.
Alors, pour moi, je suis tout à fait d'accord avec Yasmine, parce que voilà, on n'apprend pas forcément grand chose lors de cette interview. Après, pour moi, Giroud, c'est un des meilleurs buteurs en équipe de France, et même quand il était à Arsenal, quand il jouait, il était exceptionnel. Et c'est vrai que Deschamps, ce qu'il lui a fait, je trouve pas ça du tout sympa. À partir du moment où il a écarté de l'équipe de France parce qu'il a refait jouer Karim Benzema.
Non, il l'a pas écarté, il a fait sa déclaration.
Ça a été l'excuse selon Ryan. Laisse-le terminer, on va revenir à toi, ton droit de réponse.
Pour moi, ça a été une simple excuse de la part de Didier Deschamps.
Ouais.
Il a trouvé cette excuse-là parce qu'il savait que derrière, il avait Benzema. Il a utilisé Olivier Giroud pendant un certain temps. Il a vu pendant 5-6 ans le fait que Benzema ne soit plus sélectionné. Ben, il avait Olivier Giroud en roue de secours. Aujourd'hui, il sait que Benzema sera de retour. Donc, il a utilisé cette excuse-là, il a utilisé cette situation pour se sortir, pour sortir Giroud de l'équipe de France. Et je trouve pas ça sympa après tout ce que Giroud a fait pour l'équipe de France.
Et voilà. Mais allez, la réponse.
Après, moi, sur les déclarations de Giroud,
il est en désaccord avec Ryan.
Moi, je suis en désaccord parce que pourquoi t'attends ce moment-là pour sortir cet article-là?
Ouais.
Pour dire qu'en fait, il n'y avait pas de brouille, tout ça. Et il s'est passé du mois de juin, on est au mois de octobre. Et t'attends là pour sortir ta déclaration. Moi, déjà, ça, moi, j'apprécie pas.
Mais tu penses qu'il devrait. Tu penses qu'il aura assez, vraiment,
ce qu'il dit là, c'était depuis le départ comme ça, t'as pas besoin de prendre une déclaration. Là, on voit, il cherche quelque chose, il veut envoyer un message à Didier. Mais Didier Deschamps, il a quel compte à lui rendre en fait.
Ouais. Moi, c'est lui qui sélectionne. C'est ça.
Moi, en fait, je n'arrive pas à comprendre. Si Olivier Giroud, il est là aujourd'hui. À ce niveau-là, du record, à quelques buts du record.
C'est grâce à Didier Deschamps.
C'est grâce à Didier. Qui l'a meublé?
Attends, juste, on a du temps. T'inquiète pas.
Ah ben, c'est le débat ce soir.
C'est quel entraîneur qui aurait pris Olivier Giroud à ce moment-là, à l'époque où Didier déjà il a repris l'équipe de France?
Alors moi, je suis pas d'accord avec Fala. Alors oui, on va voir. Aussi ton ressenti concernant Giroud.
Un autre coach, jamais de la vie, il aurait pris Olivier Giroud.
Mais t'en sais rien. En fait, t'en sais rien. C'est
Lemary qui répond à Fala.
Moi, je pense qu'il y a pas. Faut arrêter de dire c'est grâce à l'un, grâce à l'autre. Concrètement, si Giroud a été pris aussi longtemps en équipe de France, c'est qu'il a répondu aux attentes de son coach.
Ouais.
S'il n'avait pas. Effectivement.
Non, il n'y avait pas le climat.
Laisse-moi terminer, on va voir
ses propos.
Non, mais Benzema n'était pas là, c'était un choix de Deschamps.
Non, pas de Deschamps.
Non, mais peu importe, laisse-moi terminer, s'il te plaît.
Non, alors, c'est pas un choix de Deschamps, le Lemary. C'est un choix politique qui a été pris. Déjà, il a fait que fermer sa bouche et il a fait.
Alors, Fala,
si tu me permets. S'il n'y aurait pas eu les politiques qui prenaient sur cette.
Non, là, c'est.
Ouais. Cette affaire là, de je crois que. De sextape avec Valbuena, dit Benzema, alors il est sélectionnable.
C'est Fala qui le pense.
Il est sélectionnable parce que, jusqu'à preuve du contraire, il n'y avait pas de preuve sur lui. Il a été
sélectionné dans une histoire. Alors, Fala. On va revenir à toi.
Là, je crois que Fala se trompe un peu, mais c'est pas grave.
Vas-y, dis-nous pourquoi il se trompe.
Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que. Je rejoins un petit peu les deux, c'est que quelque part, quand Benzema a été retiré de l'équipe de France. Pour moi, Deschamps avait un problème sportif en termes de performance de Benzema qui était plus bonne à l'époque en équipe de France, ça c'est un fait, et il s'est servi de ça comme prétexte.
Okay.
Aujourd'hui, il se sert aussi un peu de cette situation
Olivier Giroud,
pour sortir Giroud, mais ça a toujours été le fonctionnement de Deschamps aussi. La réalité, c'est que moi, ce qui me gêne, c'est d'entendre de dire que Giroud est redevable de Deschamps.
Ouais,
les deux sont redevables l'un de l'autre parce que ça a fonctionné. Deschamps l'a sélectionné, il a fait gagner l'équipe de France.
Si je peux me permettre, parce que si demain Benzema il est là, il n'y a pas de Giroud n'est pas là. Les statistiques sont pour Benzema, on ne sait pas.
Mais après, dis-moi la vérité,
nous a montré que c'était Giroud en place.
Tous les bons joueurs qu'il y a eu dans le monde entier, ça a toujours été grâce à un entraîneur.
Ouais.
Que ce soit Cristiano Ronaldo.
Donc Olivier Giroud, c'est un grand joueur.
Ouais.
Mais il fait partie
de la question. Si Olivier Giroud aujourd'hui est un grand joueur.
Bien sûr.
Pour moi, Olivier Giroud, les grands joueurs. C'est Zidane. C'est les Maradona.
Donc
pour lui, oui,
Ça dépend de ce que tu appelles un grand joueur, c'est ta vision.
Mais c'est quoi pour vous un grand joueur?
Un grand joueur pour moi, c'est quelqu'un qui a marqué sa sélection.
Merci.
On ne peut pas dire
que
Giroud n'a pas marqué sa sélection. 46 buts en équipe nationale, c'est marqué sa nation.
Mais en sélection,
alors, Yasmine, Fala, il n'est pas d'accord avec cela, avec ses propos. Yasmine, peut-être concernant Olivier Giroud, oui. Un mot, ça l'a fait sourire. Ça l'a fait sourire.
Je respecte les joueurs. Bien
sûr.
Bien sûr. On a l'apprentissage dans le football. Il a plein d'apprentissage, Fala. Il a plein d'apprentissage.
Il a plein d'apprentissage.
On va remettre l'église au milieu du village, il le dit
en rigolant, mais voilà. Alors Yasmine, tu veux pas réagir, Olivier Giroud? Non,
j'ai réagi tout à l'heure.
C'est le mot qu'il faut pas dire peut-être. Yasmine, on attend tes désirs concernant Olivier Giroud quand même.
Non, pour moi c'est un grand joueur, que tu le veuilles ou non. Fala,
un bon joueur.
C'est un grand joueur. Après, tu as grand joueur et ta légende aussi.
Non, tu peux les légendes, c'est encore autre chose.
Voilà, tu peux pas mettre les deux dans une légende.
On t'a pas dit de faire un stand-up, laisse-la parler, la demoiselle.
Il a sélectionné Giroud, non pas par défaut, parce que Benzema ne venait pas en équipe de France. Il y avait d'autres encore attaquants qui pouvaient venir. Ils n'ont pas fait l'affaire. Il a gardé Giroud. je rejoins quand même Louis-Marie sur le fait que les deux, ils se sont, ils ont été complémentaires. Il l'a sélectionné et Giroud l'a bien rendu.
Et la réalité, c'est que quand Deschamps prend Giroud à la place de Benzema, c'est un choix qui ne lui est pas imposé. Ça, c'est une erreur que fait Fala. Non, mais c'est ce que tu crois, moi je te dis.
Bien sûr.
Pas du tout.
Ouais.
Non, il est pas obligé.
On a Samir qui nous écoute.
Non,
hein.
Non, il est pas obligé de.
Non, ce que je te dis juste, c'est qu'il préfère.
C'est un choix par défaut.
Non. Je vais juste développer cette idée.
Benzema, il est là.
Il n'est pas là parce qu'il a décidé.
Il va te répondre.
Pour moi, Benzema n'est pas en équipe de France parce que.
La réponse d'Aurélien.
Parce que Deschamps a décidé qu'il ne serait pas en équipe de France parce qu'il ne correspondait plus à son schéma sportif par rapport à ses performances qu'il faisait en 2015. Il s'est servi de cette histoire de sextape comme d'un prétexte pour évincer Benzema. C'est un choix 100% de Deschamps validé par le GRET et non pas l'inverse. Ouais. Ne croyons pas que l'éviction de Benzema est un choix politique. Okay. C'est un choix 100% de Deschamps.
Je vais te poser une question, Ryan.
Vous m'avez dit, Giroud, c'est un grand joueur, je le maintiens.
D'accord. Pippo Inzaghi et Giroud.
C'est le même style de joueur.
Grand, pas très technique, pas très rapide, des renards de surface qui sont agiles devant les cages.
C'est le même style.
C'est le même style.
Je dis Inzaghi et Giroud, c'est le même style.
C'est pas tout à fait le même style, mais c'est la même catégorie.
C'est la même.
Inzaghi n'a jamais été technique. Le chef.
Ben c'est ça.
Dans les 9 mètres.
Giroud, dans les 9 mètres.
Giroud,
tu me dis Baptiste Touta, je pourrais être malgré que Baptiste Touta il était plus grand
l'Argentin.
Et dans le style de jeu grand pas très technique.
Merci, voilà.
Giroud, merci plus Ryan technique.
C'est pas la taille de Valbuena quand même.
Merci Louis-Marie.
Moi j'ai déjà vu Inzaghi faire des saltos aussi
Et reste ancré sur ses positions, tout comme Yasmine concernant Olivier Giroud. Un grand merci, Louis-Marie Fala, à Ryan de nous avoir rendu visite, ainsi que notre consultante Yasmine. La suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. On se retrouve dès demain à partir de 20h. Bye bye.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre.